Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est dans l'est de la capitale, au 104 Paris, dans le 19e arrondissement, que nous retrouvons Franck Ferrand qui s'est installé au cœur de l'exposition 120 ans de cinéma Gaumont depuis que le cinéma existe. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici, au 104 Paris. Nous sommes dans le 19e arrondissement, au cœur d'une sorte de cité culturelle dont je vous avoue que je ne la connaissais pas. Honte sur moi. Je suis ravi d'avoir découvert ces lieux, d'autant plus qu'ils sont littéralement habités en ce moment par quelques-uns des souvenirs les plus communs à tous les Français, car ce sont des extraits, ce sont, j'ai envie de dire, des éclats comme des morceaux de films qui sont diffusés sur les murs, sur les plafonds. On est dans un tourbillon qui rend hommage à un très grand monsieur, à une très grande marque. Le roman d'un tricheur de Guitry en 1936 et la même année, Le génie de Carnet. Le plaisir de Max Ophuls, 152, deux ans plus tard, Le French Cancan de Renoir et Les Tontons Flingueurs, bien entendu, de Lautner dans les années 60, La folie des grandeurs d'Houry dans les années 70 et La Naveva de Fellini. Dix ans plus tard, Les Visiteurs de Poiret jusqu'aux Garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne. Si je vous cite tous ces grands films, évidemment, cela vous évoque un nom. Un nom qui, en France, se confond, et quand je dis en France, dans le monde entier, se confond avec le nom même du cinéma, c'est Gaumont. 1895-2015, cela fait 120 ans que Gaumont fait rire et pleurer, frissonner, palpiter toutes les générations dans les salles obscures de France et du monde entier. D'où vient-elle cette grande maison? Qui était Léon Gaumont? Comment s'est-il hissé au premier rang de la production? Lui qui au départ ne se vivait pas du tout comme un producteur. Ce sont quelques-unes des questions que nous allons nous poser ici donc, en marge de cette exposition Gaumont 120 ans de cinéma. Nous y sommes accueillis par Ariane Toscan Duplantier, qui est directrice du patrimoine et de la communication chez Gaumont. Merci beaucoup, Ariane Toscan Duplantier, de nous accueillir ici. On peut dire qu'ici, ce sont tous les films de la Gaumont qui sont mis en avant. Peut-être pas tous, car vous avez un catalogue qui en comprend plus de 1000.
Oui, non, c'est pas tous les films, c'est un choix de films.
Un florilège.
Représentatif, on va dire.
Et le choix, il a été établi notamment par Dominique Paigny, qui est le commissaire de cette exposition 120 ans de cinéma. Bonjour Dominique Paigny.
Bonjour.
Je viens de faire le tour de cette exposition. D'ailleurs, j'ai presque envie de mettre ça au pluriel, car c'est une exposition diffractée avec plusieurs lieux. Vous nous avez construit dans le cœur même du grand hall de ce 104 Paris. Vous avez bâti une baraque foraine, hommage au premier temps de la Gaumont.
Oui, c'est les origines du cinéma même en général.
Exactement.
Ce sont les forains qui en ont été les premiers diffuseurs des œuvres au cinéma.
Alors, vous nous avez prévu un Gaumont-rama qui est une sorte de mise en perspective des films. Vous les présentez dans des triptyques qui se succèdent un peu partout et qui établissent des correspondances.
D'écran.
D'une manière générale, les liens, les correspondances, les échos, les mises en abîme sont au cœur de votre démarche. Une démarche qui se retrouve en face dans la cueillette des marguerites. Alors là, on va carrément capter, chercher des visages de grands comédiens avec des miroirs que l'on reprojette sur les murs. Et puis, bien sûr, il y a juste derrière moi l'exposition elle-même, le cœur de l'exposition, sont les trésors de la maison.
C'est cela, c'est en tout cas son patrimoine. C'est là où on a le sentiment qu'on peut refaire une petite histoire de la Gaumont, ininterrompue, qui est unique en son genre. Même nos amis américains n'ont pas l'équivalent, puisque les grandes sociétés américaines comme MGM, Warner, la Fox ont disparu et ils sont remplacés par des grands acheteurs japonais.
C'est un cas unique au monde.
Nous, Gaumont, ça continue. Et depuis que le cinéma existe, en effet, Gaumont, produit des films. Alors, il a été la propriété de plusieurs grandes personnalités, mais c'est toujours Gaumont.
Et c'est toujours cette marguerite, c'est toujours cette musique un peu particulière qui accueille les téléspectateurs dans les salles obscures du monde entier. Nous venons dans un instant à l'histoire de la maison, de la société elle-même qui se confond, nous l'avons compris, avec l'histoire du cinéma. Avant ça, j'aimerais mettre en avant un personnage qui est mis en exergue. C'est le personnage d'Alice Guy. Qui était Alice Guy? On peut dire que c'était tout simplement la première réalisatrice de cinéma.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Un matin de 1895, Dans les bureaux de Monsieur Léon Gaumont se présente un certain Louis Lumière. Ce Louis Lumière vient de créer un appareil révolutionnaire qu'il a conçu avec son frère et qui permet l'enregistrement, bien sûr, mais aussi et surtout la diffusion de vues animées. Cet appareil est devenu mythique, c'est le célèbre kinétoscope. Gaumont, qui à l'époque s'occupe essentiellement de photographie, on va y venir tout à l'heure, on va voir d'où vient Léon Gaumont et ce qu'il faisait à cette époque, souhaite promouvoir un appareil similaire, le chronophotographe. Et dans l'aventure de ce nouvel appareil, une dame va jouer un rôle tout à fait extraordinaire. C'est suffisamment rare à l'époque qu'une femme joue un rôle prédominant pour qu'on le mette en avant. Cette dame, c'est la secrétaire, tout simplement, de Léon Gaumont. Elle doit dresser une liste d'endroits dans Paris, de manifestations idéales pour des prises de vue animées. Elle s'occupe des sorties de caméras, du suivi du développement des films, des envois aux clients. Bref, elle a 23 ans à l'époque et l'on peut dire qu'elle est la secrétaire et un petit peu la dame à tout faire de Léon Gaumont. Elle va bientôt réaliser ses premiers films. Imaginez deux amoureux pas très bien assortis et un peu âgés. La dame est vraiment grosse et son amant est très mince. C'est un exemple des tournages qui ont lieu dans les buts de Chaumont. Ils se cachent derrière une palissade pour s'embrasser en cachette. Un chasseur passant par là aperçoit un oiseau. Ignorant qu'il fait partie du chapeau de la dame, il tire, pan, pan. La grosse dame s'évanouit dans les bras de son amant Fluet qui, évidemment, tombe sous son poids. Voilà le genre de petite scénette qu'on pouvait tourner à l'époque. Voilà le genre de petit film que Madame Alice Guy va se mettre à réaliser à un rythme absolument vertigineux. Alors d'où vient-elle, cette Alice Guy, qui est la secrétaire, encore une fois, de Léon Gaumont? Elle est née, je vous ai dit, 22-23 ans plus tôt. Elle est née à Saint-Mandé, en région parisienne. Ses parents, Émile et Marie-Clotilde, sont allés vivre un temps au Chili. Alors elle a vécu, elle aussi, avec eux, à Valparaiso, après avoir passé une partie de son enfance en Suisse. Et puis, en 1895, le père Émile Guy se réinstalle à Paris. Il appelle auprès de lui son fils, Louis, ses deux filles aînées, Julia et Henriette. Seulement Alice, avec son autre sœur, Marguerite, elle va rester en Suisse. Elle va être placée à Ferney, près de Genève, dans un établissement religieux. Et elle va vivre séparée de ses parents, séparée de sa mère notamment, pendant 4 ans. Et c'est sans doute pour essayer d'échapper à ce qu'elle ressent comme un abandon, comme une véritable déréliction, qu'Alice se réfugie dans l'écriture. Elle va se lancer dans une sorte de travail d'imagination. Elle est une sorte de romancière quasiment très précoce, en tout cas. Emmanuel Gaume, dans son ouvrage « Alice Guy, la première femme cinéaste de l'histoire », nous dit « Elle écrivait des fables, puis les envoyait à sa grande sœur Julia, qui les lisait avec passion et émerveillement. Elle inventait beaucoup d'histoires qu'elle partageait avec sa meilleure amie de pensionnat, Régine, douée, elle aussi, d'une imagination sans limite. » Alice est très imaginative, elle a surtout un caractère bien trempé. On la voit toujours avec un peu d'avance se plonger dans la littérature de son temps, et notamment dans les livres interdits, dans certains livres de Balzac qu'on n'a pas le droit de lire à la maison, dans le Nana de Zola, vous imaginez. Assez vite, cette Alice se dit qu'elle travaillera un jour dans le monde de la fiction, d'une manière ou d'une autre. Son premier travail, c'est d'être sténographe, ce qui à l'époque est un métier d'homme. Elle a une lettre de recommandation. Elle entre au comptoir général de photographie un jour de 1893. C'est une célèbre maison qui fournit du matériel de prise de vue aux personnes qui peuvent se le permettre à l'époque. On peut parler du tout Paris, mondain, intellectuel. On est en pleine explosion de la photographie. Et c'est le fondé de pouvoir du directeur, un certain Léon Gaumont, qui l'a reçu en premier. Les références sont excellentes, néanmoins, il préférerait pour le poste un homme, et en plus il la trouve trop jeune. Mais elle est tellement sûre d'elle, elle est douée d'un tel charisme, qu'elle finit par bluffer Léon Gaumont, qui va l'engager pour un essai. Quelques mois plus tard, le comptoir général de photographie va faire faillite. Léon Gaumont décide de reprendre l'activité sous son nom. Il crée un conseil d'administration avec un certain nombre d'anciens clients, dont des personnalités très prestigieuses. Je pense notamment à Gustave Eiffel. Gaumont va créer de nouveaux ateliers de développement, de tirage photographique. On est à Belleville. Il gère les clients importants. Et c'est dans ce contexte qu'on voit arriver, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, qu'on voit arriver donc le fameux Louis Lumière avec son appareil. Alors Alice Guy va être chargée très tôt par Léon Gaumont de tourner les fameux petits films dont je vous parlais tout à l'heure. Pour la seule année 1893, la maison Gaumont réalise 76 productions de chronophotographes. Donc vous voyez, on est vraiment dans les tout débuts, hein, des petites productions qui durent, c'est des films qui durent une minute, deux minutes parfois. La plupart du temps, ce sont des vues de plein air, des actualités qui sont produites par les techniciens des ateliers de fabrication. Entre 98 et 1900, Alice produit des dizaines et des dizaines de vues animées de musicals, des duos de clowns, des numéros avec des animaux, des scènes de danse, des numéros de transformistes. Les productions ont pour nom La Fée aux Choux, Le Son de Bicyclette, Surprise désagréable, La Servante maladroite, etc. etc. Ce sont des petites scènes, des petites scénettes. Le but, c'est d'amuser les gens. De toute façon, le public de l'époque n'est pas difficile du tout, puisque sa grande stupéfaction, son ébahissement même, c'est de voir bouger une image que jusqu'alors on n'avait jamais vue que fixe. À partir de ce moment, on peut dire que le cinématographe est né et que l'une des premières à faire bouger les images, c'est justement Alice Guy.
Un extrait de la bande originale du film Les Tontons Flingueurs, composé par Michel Magne. On vous retrouve, Franck Ferrand, dans un instant pour la suite de votre récit sur la première femme cinéaste, Alice Guy.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Une pionnière méconnue du cinéma français est au cœur de l'histoire. Vous évoquez, Franck Ferrand, la première femme cinéaste au monde, Alice Guy.
C'est en 1902 qu'est inauguré un nouveau studio de cinéma de Gaumont au Butte-Chaumont, le théâtre cinématographique le plus grand du monde. Alors il a été fait vraiment sur le modèle de grand théâtre, hein, notamment sur celui de l'Opéra de Paris. Le toit est en verre parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que un peu comme ces appareils qui sont à la fois des appareils de prise d'image et de diffusion, eh bien ce grand théâtre est une sorte de grande salle de spectacle, hein, 45 mètres de long, 20 mètres de large, 34 mètres de haut. On tourne à l'intérieur jusqu'à 5 films par jour avec un nouvel appareil qui s'appelle maintenant le chronophone. Le rêve d'Alice Guy, c'est de monter sa propre maison de production pour y faire ses propres films en toute indépendance. Que de bons souvenirs et de découvertes techniques, nous raconte Emmanuel Gaume. Les films tournés à l'envers permettant de prendre une maison s'écroulant et se reconstruisant comme par miracle, un personnage tombant d'un toit capable d'y remonter d'un bond, un client de restaurant jugeant la note trop salée et restituant son repas. Vous imaginez comme ça doit être élégant tout ça. Ralentissement ou accélération des coups de manivelle permettant au personnage d'être frénétique ou au contraire complètement apathique. On est dans la naissance du ralenti. J'avais eu l'occasion dans une émission assez récente consacrée à Georges Méliès de vous dire que dès les débuts du cinéma, à peu près toutes les grandes inventions, tous les effets spéciaux qui par la suite allaient faire le succès de ce nouvel art avaient été inventés. En quelques années seulement, on trouve tous les trucs qui ensuite seront perfectionnés, seront évidemment, se hisseront au niveau d'un art. Mais on a déjà en germe, en gestation, tout ce qui va faire la force du cinéma. Alors, Alice Guy s'entoure de scénaristes, je pense à Louis Feuillade, qui va par la suite devenir célèbre pour avoir adapté la série des Fantomas et qui devient son scénariste, qui co-réalise avec elle des petits films, qui devient l'un de ses meilleurs amis. Dans les années qui suivent, Alice Guy tourne et produit des films de plus en plus longs, avec des moyens qui deviennent relativement importants. Alors, on va tourner La Naissance, La Vie, La Mort du Christ, un film en 25 scènes avec 300 figurants, s'il vous plaît. On pense là à ce qui est en train de se produire exactement à la même époque aux États-Unis, bien entendu, avec ces films qui présentent des spectacles de plus en plus impressionnants. Et pour l'instant, je ne vous ai parlé encore que de la vie professionnelle d'Alice Guy. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à 33 ans, alors que sa famille la voit devenir vieille fille, hein, parce qu'elle est tellement absorbée par toutes ses occupations qu'évidemment, pour l'instant, elle n'a pas vraiment de vie privée, elle rencontre un certain Herbert Blacher. Lui aussi travaille dans le cinéma, lui aussi chez Gaumont. Du reste, il a 9 ans de moins qu'elle. Ils vont se marier, ils auront deux enfants, Simone et Reginald. Et comme Herbert Blacher est nommé responsable de la succursale de Gaumont à Berlin, eh bien elle va le suivre. Elle part pour l'Allemagne, de là elle regagnera les États-Unis, où Blacher devient directeur de la firme Gaumont. À ce moment-là, Alice Guy ne tourne plus. Elle s'installe avec son mari à Flushing, près de New York, et elle va tenter de promouvoir le fameux chronophone de Gaumont. C'est en 1910 qu'elle va monter enfin sa propre société, les studios Solax. Elle est présidente et directrice de production. Elle tourne beaucoup de films dans tous les domaines, des westerns, des films de guerre, toutes sortes de comédies. Mais surtout, et c'est ce qui va devenir un peu son domaine de prédilection, elle tourne des mélodrames sociaux, notamment La Poupée, The Doll, qui évoque par exemple le sacrifice d'enfants d'ouvriers pour sauver une mère malade avec la complicité d'un patron d'usine, sensible au sort de ses employés. On est là déjà dans une forme de réalisme poétique qui fait penser à ce que seront très bientôt les films d'un certain Charlie Chaplin, bien entendu. On est dans cette veine, si je puis dire. Même chose avec Le péché de son père. Alors là, on entre carrément dans le mélodrame. Il faut dire qu'on s'adapte au public, on s'adapte au lieu de diffusion, on s'adapte à un certain esprit qui est celui du cinéma de l'époque. Alice Guy veut des acteurs le plus naturel possible. Son modèle, c'est un grand réalisateur américain, c'est David W. Griffith, qui est l'auteur de grandes fresques historiques. Et l'on peut dire que Alice Guy s'inspire, elle voudrait devenir en quelque sorte une sorte de Griffith. Et elle remporte un certain nombre de grands succès. Voilà ce qu'on peut lire dans un article de la Moving Picture World à l'époque. Apparu sur le marché il y a à peine 6 mois, les films de la Solax font un tabac. Madame Blacher, c'est ainsi qu'on l'appelle bien sûr, écrit, met en scène et produit elle-même ses films, jeune, énergique, compétente, ambitieuse. Il faudra suivre cette productrice talentueuse car, qui sait, la figure dominante du cinéma de demain est peut-être une femme et cette femme pourrait être Madame Alice Blacher. Preuve de l'énorme succès de ses films. Deux nouvelles installations sont construites à Fort Lee, dans le New Jersey. On est là en 1912, avec 5 plateaux de tournage qui peuvent travailler simultanément. Donc on est dans cette idée d'une industrie cinématographique, bien entendu, avec un rythme effréné. 2 films sont produits par semaine. On arrive à 32 films en 3 mois, vous imaginez. Des films de plus en plus longs, hein. Certains font jusqu'à 45 minutes. De plus en plus ambitieux, avec des scénarios à toutes sortes de niveaux de lecture, si je puis dire. Et à ce moment-là, c'est le mari d'Alice Guy qui va récupérer la direction de la firme de Solax, qui est en mauvaise posture, il faut bien le dire, qui accumule les dettes. Parce que la Solax marche bien, mais évidemment, tout ça coûte extrêmement cher. Il ne faut pas oublier que la concurrence est très rude. Il est grand temps de migrer sur la côte ouest des États-Unis, à Hollywood. Or, Alice Guy, qui restait sur la côte est et qui refuse d'entrer dans le nouveau système des grands producteurs américains, est confrontée à des difficultés de plus en plus grandes. Le coup de grâce, ce sera l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. C'est pas seulement le coup de grâce pour Alice Guy, du reste. Il y a un grand nombre des producteurs de l'époque qui vont subir mauvaise fortune. Les studios de Fort Lee seront vendus pour éponger les dettes. Alice revient avec son mari en France en 1922. Elle va divorcer dans la foulée. Et quand elle revient, autant vous dire qu'en France, tout le monde l'a oublié, bien entendu. Certains noms se sont imposés dans le cinéma français. Elle a pourtant à son actif des centaines de films. On pense peut-être même un millier de films. La plupart ont disparu. Elle sera néanmoins décorée de la Légion d'honneur en 1958. Ça, c'est le mérite des gens qui, finalement, vivent extrêmement vieux. Elle mourra 10 ans plus tard, en mars 1968, à près de 95 ans. Elle disait tout à fait sur la fin, « Est-ce un échec ?» Elle parlait de sa carrière. « Est-ce un échec ? Est-ce une réussite ? Je ne sais pas. J'ai vécu 28 ans d'une vie si intense. Si mes souvenirs me donnent parfois un peu de mélancolie, je me souviens des paroles de Roosevelt. Il est dur d'échouer, mais il est pire de n'avoir jamais essayé. »
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand, depuis la Cité culturelle de 104 Paris et l'exposition 120 ans de cinéma Gaumont depuis que le cinéma existe. Vos invités, la directrice du patrimoine de la communication chez Gaumont, Ariane Toscan-Duplantier, et le commissaire de l'exposition, Dominique Paigny.
Et oui, Omblin, je voulais revenir un instant sur la carrière d'Alice Guy avec Dominique Paigny, commissaire de cette exposition Gaumont 120 ans de cinéma au 104 Paris, ici dans le 19e arrondissement. Lorsque j'ai dit que j'allais parler d'Alice Guy, vous aviez l'air un peu là, si je puis dire, Dominique Paigny. On en parle beaucoup en ce moment, c'est vrai.
Oui, non, je n'étais pas là. C'est-à-dire qu'en plus, il y a un certain nombre d'archives qui ont été longtemps non retrouvées, et puis même pas toutes retrouvées, même encore aujourd'hui, pour véritablement vérifier le rôle qu'elle a eu. Tout cela, c'est de l'archéologie. Incontestablement, le rôle important de cette personne auprès de Léon Gaumont, c'est aussi à l'image des hasards et des rencontres et des absences de programmation réelle qu'un Léon Gaumont avait quand il commence sa société. Il a quelqu'un sous la main, c'est sa secrétaire en effet. Il a pour vocation, lui et sa société, le comptoir général de photographie qu'il a repris, non pas de fabriquer des images, mais de diffuser des appareils, de vendre des appareils de projection, de vendre des appareils...
C'est un homme de la technique, lui.
C'est un homme de la technique, c'est un inventeur, mais comme tout le 19e siècle. Le 19e siècle, c'est le siècle où les inventeurs remplacent les artistes. Hein, et il est un petit peu, au fond, dans la position qui serait celle d'un viticulteur qui ne vendrait que des bouteilles. Et il n'aura pas le vin à mettre dedans. Il fallait, en effet, mettre le vin des images dans les appareils de projection, parce qu'il fallait concurrencer les frères Lumière qui avaient déjà la place.
En tout cas, ce qui est très étonnant, c'est qu'au départ, tout le monde s'intéresse aux appareils, à l'organisation des séances, de la diffusion, etc., et qu'on se soucie très peu de ce qu'on montre au public, en vérité.
En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est comme toutes les naissances, c'est les hasards, les rencontres, les occasions, les opportunités. Voilà un homme qui découvre, alors qu'il n'a pas du tout l'intention de produire des films, il découvre le cinématographe Lumière. Évidemment, immédiatement, il veut rentrer sur le marché de la diffusion de cet appareil et quitte même à tenter d'en faire un concurrentiel en allant chercher un technicien qui
fameux chronophone. Là, c'est ça.
Oui. Il va chercher un homme qui s'appelle Georges Desmenis, qui était déjà connu pour avoir participé à l'invention, à la conception, si vous voulez, d'images qui restituaient le mouvement, avec un grand physiologiste français qui s'appelait Marais. Étienne Jules, pas Jean, pas encore.
Étienne Jules Marais,
et qui était un physiologiste et qui voulait surtout pas montrer les images comme un spectacle, il voulait simplement analyser le mouvement des animaux et des hommes. Et Desmenis, bien dépité de ne pas pouvoir faire fructifier commercialement et en spectacle ces images, ces chronophotographies comme on les appelait, était sur le marché ce marché de l'emploi. Il était disponible. Gaumont le prend et lui dit, bien, on va construire un appareil pour faire la nique, pour concurrencer les frères Lumière qui ont déjà le terrain, et pour vendre
l'appareil auprès des forains, en fait.
Parce qu'au
départ, on est bien dans un art de foire, dans un art forain. C'est juste une petite distraction qui est
proposée.
Il n'y a
pas de salle de cinéma.
Eh bien, bien sûr.
Il n'y a pas de salle de cinéma.
Alors, ça va venir 10 ans plus tard. On va y venir.
Mais il faut se souvenir que, par exemple, les premières vues lumière que les opérateurs lumière rapportent en 1900 à Paris, du monde entier, elles sont, ces vues lumière, non pas montrées dans des salles, mais aujourd'hui, un peu comme on le dit, vous savez, dans les grands musées d'art contemporain, aujourd'hui, il y a des écrans partout, dans tous les sens, etc. Eh bien, c'est comme ça. C'était comme ça déjà. Vous savez, c'est un éternel retour. Les gens se promenaient dans les écrans et découvraient l'Asie, l'Afrique, New York, Venise. Bon, en 1900, au Grand Palais.
On voit quelques-uns de ces trésors dans l'exposition Gaumont, justement. Et j'ai notamment été très frappé tout à l'heure lors de notre visite par ces images magnifiques qui ont été tournées alors un petit peu plus tard, en 1913, sur les plages de Trouville et de Deauville. Des images en couleur. On viendra à ça dans un instant.
Mais ce que je voudrais dire, un dernier mot sur Alice Guy. Ce que je trouve très beau dans cette histoire, c'est qu'il a une personne sous la main à qui il demande de faire des images.
En fait, hein.
Absolument, il faut mettre des images dans les appareils. Pour vendre des appareils, il faut mettre des images les meilleures possibles et les plus belles possibles pour donner envie de vendre les appareils aux forains. Et elle est là, et lui d'ailleurs, la légende, mais la réalité aussi, je crois bien, veut qu'il lui ait demandé à Alice Guy de faire des images, mais hors de ses heures de service de secrétariat. Donc en dehors de ses heures de présence au bureau. Ça, je trouve ça vraiment très très très, très amusant.
Oui, il ne faudrait pas non plus confondre les choses sérieuses et les choses secondaires. L'ouvrage Alice Guy, la première femme cinéaste de l'histoire, présenté sous une forme romancée, est un ouvrage d'Emmanuel Gaume qui est publié chez Plon. C'est quand même, Ariane Toscan-Duplantier, assez stupéfiant qu'en fait on ait confié les tout premiers films de la maison Gaumont à la secrétaire du patron. En fait, il fallait remplir.
Mais elle avait la notion du mouvement, elle avait la notion du marketing. Elle a fait une approche marketing de l'appareil. Elle se disait que pour mieux le vendre aux forains, il fallait montrer montrer de quoi l'appareil était capable.
Mais ce qui est amusant, et donc aller un petit peu au bout de ce qu'il était possible de montrer, hein, c'est ça, de jouer avec l'image,
oui,
avec le rythme, avec les allées et les retours, avec les images dans le sens de déroulement normal et dans le sens inverse.
Elle a même probablement utilisé l'appareil bien au-delà de ce que Léon Gaumont pouvait imaginer. Après, ce qui est amusant, c'est qu'à l'heure actuelle, enfin là, on sort du Festival de Cannes, où le débat de l'année était quand même le rôle des femmes et des réalisatrices dans les grands festivals. Le Festival de Cannes se targuait à raison d'avoir beaucoup de femmes réalisatrices cette année. Ça n'est que rendre hommage à Alice Guy et au travail qu'elle a fait.
Oui, bien sûr.
À croire que la Gaumont a vraiment une tradition dans ce domaine, parce qu'aujourd'hui, c'est une société dirigée par les femmes.
D'ailleurs, oui.
Sidonie Dumas, qui est la directrice de la société, Ariane Toscan-Duplantier, avec elle, auprès d'elle, et bien d'autres encore. Tout l'arbre généalogique, si je puis dire.
Ça, c'est la Gaumont d'aujourd'hui. Dans un instant, je vous propose de revenir à la Gaumont d'hier.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
L'exposition 120 ans de cinéma Gaumont depuis que le cinéma existe est présentée jusqu'au 5 août au 104 Paris avec Europe 1. On vous retrouve sur place, Franck Ferrand, avec vos invités, la directrice du patrimoine et de la communication chez Gaumont, Ariane Toscan-Duplantier, et le commissaire de l'exposition, Dominique Paini.
Les équipes techniques d'Europe 1 nous ont créé ici même, au 104 Paris, un studio aux couleurs d'Europe 1. Et nous sommes au cœur même de cette exposition Gaumont 120 ans de cinéma, qui présente des extraits de films, qui présente bien sûr des machines elles-mêmes, des affiches de cinéma, beaucoup de costumes. Vous avez énormément de costumes dans les réserves de Gaumont, Ariane Toscan-Duplantier.
Pas mal, mais c'est vrai que on a pu, alors depuis une trentaine d'années, garder les costumes des films en tournage, ceux que nous trouvions les plus intéressants, puis racheter aussi un certain nombre de costumes, d'éléments de décor au fil de ventes aux enchères ou chez des collectionneurs qui datent d'avant l'époque où nous nous penchions sur le problème de la mémoire et du patrimoine.
Il y a toujours un aspect mythique, bien entendu, dans ces extraits, comment dire, dans ces vestiges qui paraissent surgis de l'écran. On a rêvé sur les personnages, sur ces magnifiques costumes qui sont mis en scène, qui sont dans leur lumière, etc. Et d'un seul coup, on les a là sous les yeux. Ça, c'est magique. C'est ce qui explique le succès de l'exposition. Il y a beaucoup de monde, en fait.
Oui.
Je crois qu'on est à plus de 30 000 visiteurs.
On est à plus de 30 000 visiteurs. Je dirais que c'est bien, bien au-delà de nos espérances de départ. Mais c'est vrai qu'en venant dans un lieu comme le 104, ce qui nous intéressait aussi, c'est qu'à tous les âges, on pouvait y trouver, y retrouver un sentiment, une émotion, découvrir, redécouvrir un film.
Ce qui est assez frappant lorsqu'on se promène dans ces correspondances que vous avez établies, Dominique Paini, c'est qu'on découvre une certaine onde. Il y a un style Gaumont. C'est assez paradoxal puisque nous avons vu qu'au départ, ce qui intéressait Léon Gaumont, c'était la technique, c'était les appareils, etc. Et néanmoins, il y a bien un esprit. Il y a un imaginaire qui peu à peu va se constituer.
Moi, je me suis dit, et j'en étais moi-même étonné, qu'il y a, on pourrait presque dire que Gaumont est un auteur.
Voilà, c'est ça.
Avec ses obsessions, ses récurrences, ses retours au même personnage. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, qui était à mon avis très juste, et encore plus juste avec la Gaumont, quand vous me disiez qu'au fond, tout était inventé au début.
Oui, dès les premières années.
Je suis frappé, j'ai été frappé, j'ai pensé, j'y avais jamais pensé, mais on s'ébahit avec raison aujourd'hui des solutions que le cinéma trouve avec les séries, avec la télévision, etc., pour fidéliser le public, pour renouveler les récits. Mais au fond, Gaumont a commencé avec la série. Les céréales, Fantomas, Les Vampires, Judex, Barabbas, tous ces grands céréales. Au fond, le cinéma est né en série. C'est ça aussi qui fait la qualité et le talent.
Vous êtes en train de publier, ça va faire plaisir aux cinéphiles, des coffrets qui sont monumentaux, si je puis dire, avec quelques-uns des trésors de vos collections. Ça commence par les années 1895-1929. Là, on a beaucoup de films muets, par définition, uniquement même, en fait, non ?
Le premier coffret ne sont que des films muets. Donc, il y a 9 coffrets qui sortiront tout au long de l'année jusqu'au mois d'octobre, un par décennie, avec ce que nous estimons, en tous les cas, les films les plus importants. Il y a une vingtaine de films. Nous pensions au départ mettre une dizaine de films par décennie.
En fait, il y en a une vingtaine.
Et en fait, c'était trop compliqué d'en faire.
Donc, vous allez présenter combien de films au total dans cette série de coffrets ?
Il doit y avoir environ plus de 100 films, entre 100 et 130 films.
Certains ont disparu, se sont dégradés. Mais,
ah oui, alors bon, ça c'est le problème de la restauration, on va pas, oui. C'est pas le débat d'aujourd'hui peut-être, mais oui, enfin certains, chez nous, on a la chance d'avoir commencé très tôt le travail de restauration dans le souci justement du patrimoine et du devoir de mémoire que nous avions vis-à-vis du public. Donc nous n'avons heureusement perdu totalement aucun film, mais oui, certains ont été sauvés in extremis. C'est le cas des Vampires, justement, de Feuillade, qui vient d'être restauré et qui était vraiment très, très abîmé. Ou également La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, que nous sommes en train de restaurer également.
Dans le parcours principal de l'exposition, vous diffusez deux des tout premiers films parlants, c'est La Talente, oui, de Jean Vigo.
Oui, oui, Jean Vigo, et puis le Daïna la Métisse de Jean Grémillon. C'est très, très frappant parce que la Gaumont, là, démontre combien elle fut à la fois une société qui a recherché, encore, je le dis, la réussite. Et parce que c'est pour ça que la Gaumont aussi a rencontré plus tard des grands producteurs comme Alain Poiret et Daniel Toscan-Duplantier, qui illustrent idéalement, une société à la française, une exception à la française, je dirais que la Gaumont incarne idéalement. Hein. Mais pour revenir à Louis Feuillade, oui, Feuillade sera, de mon point de vue, l'artiste, l'auteur d'un côté, mais aussi l'homme de succès, l'homme qui va dans les salles écouter ce que les publics...
Il va prendre le pouls du
mais
public.
Oui, le pouls du public. Hein, ouais. Mais et finalement, ce qui reste aujourd'hui, les grandes œuvres d'art qui restent, c'est quand même aussi celles qui ont rencontré leur public.
Mais bien sûr. On peut dire qu'il y a des films qui ont marqué des générations. On aurait pu faire ça d'ailleurs, vous auriez pu mettre en avant un certain nombre de films qui incarnent littéralement l'esprit d'une génération. Ariane Toscan-Duplantier.
Je pense que c'est un peu en fait ce qu'on a fait avec les coffrets indirectement, c'est-à-dire que par décennie, chacun en fonction. La particularité du cinéma, c'est que quand on découvre un film, il nous crée une émotion. Quand on revoit le film 20 ans après, il nous recrée la même émotion.
Et voilà, et une émotion qui a gagné en épaisseur, en profondeur d'une certaine manière. Il y a une réminiscence proustienne finalement dans le fait de revoir des films qu'on a aimés et qui nous ont incarnés à des époques.
Chacun a sa Madeleine de Proust, c'est évident. Chacun a son film de référence.
Que ce soit La Boum pour les uns ou les grands films de Besson pour d'autres, en fait, etc. Je pense pour des générations assez récentes, en fait.
Ah non,
aussi.
Mais moi, vous me parlez, La Boum m'a suivi toute ma vie. Et je peux revoir La Boum 20 fois et l'émotion est la même. Mais c'est pour ça qu'en rangeant ces coffrets, on va dire, par décennie, chacun, en fonction de son époque, son âge, peut aller aussi chercher dans la décennie qui lui crée le plus d'émotions.
Et alors, puis, disons-le aussi, des films qu'on n'a pas aimés parfois au moment de la sortie ou qu'on a méprisés, comme ça, avec des grands airs. Là, en les revoyant, les films, parce que je devais les choisir, mais j'étais écroulé de rire. Et j'ai même parfois eu de l'émotion que je n'avais pas eue.
Dominique parle des Visiteurs.
Oui, les Visiteurs.
Qui à l'époque n'avait eu pas de grâce.
Pris de haut. Et j'ai adoré ce film à la revoyure. Enfin, même pas à la revoyure, à la voyure.
Oui, c'est ça.
Le temps fait à l'affaire.
Pour vous, c'était la première fois.
Oui, le temps fait à l'affaire pour les films.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
On vous retrouve, Franck Ferrand, depuis le 104 Paris et l'exposition 120 ans de cinéma Gaumont depuis que le cinéma existe avec Europe 1. Et avec vos invités, à vos côtés, la directrice du patrimoine et de la communication chez Gaumont, Ariane Toscan-Duplantier, et le commissaire de l'exposition, Dominique Paigny.
Vous me disiez tout à l'heure, lorsque nous sommes entrés dans la cueillette des marguerites, hein, cette partie-là, vous
oui,
me disiez, en fait, je voulais montrer, Dominique Paigny, je voulais montrer la dimension collective du
c'est
cinéma.
Ce que vient de rappeler Ariane, le cinéma est un loisir, prioritairement un loisir. Il est devenu un art, parfois, souvent, mais c'est un loisir, c'est du temps d'oubli. Il faut de l'oubli, il y en a assez du devoir de mémoire. Il faut un peu de devoir d'oubli aussi, et le cinéma a été ce grand outil.
C'est une parenthèse, oui.
Oui, et c'est nécessaire à la vie,
du rêve,
vous rendez compte.
Du rêve,
disait... vous rendez compte. Un peu d'oubli aussi, vous rendez compte, si on n'oubliait pas un peu de temps en temps.
Le cinéma, disait Giraudoux, passe sur nos soucis comme le fer sur le lin.
Oui, 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 et le cinéma, c'est aussi cet endroit aussi où Jacques Liberti, le poète, disait, parlait des épaules l'art des ténèbres, épaule contre épaule. Et c'est un peu le sens de la grande salle qu'on a fait pour accueillir le public avec ces jeux avec les miroirs, où le public va cueillir littéralement.
Va chercher, attraper,
les
accrocher.
Les acteurs, les actrices de 120 ans de cinéma. Donc on s'y amuse. On s'y amuse d'ailleurs dans cette salle que si on y est nombreux. Et c'est une belle démonstration.
Accrocher des reflets mouvants, est-ce que ça n'est pas, somme toute, la quintessence même de l'art cinématographique et du spectacle cinématographique? Alors, il faut là parler des grandes salles, parce qu'il y a eu les appareils les différents types d'appareils de cinématographe. Il y a eu la production et la diffusion de films, mais aussi l'organisation du spectacle lui-même à travers ces grandes salles, Dominique Paigny. Gaumont s'occupe aussi de ça.
Oui, elles arrivent assez assez tardivement, enfin tardivement, 10 ans à l'échelle de l'existence du cinéma, c'était assez, c'était assez long.
Dans les années 1910.
Oui, 1907-1908. Et d'ailleurs, les salles ne s'appellent pas des cinémas, ça s'appelle des théâtres cinématographiques initialement, parce que certains cinémas conservent encore la mémoire du fait que c'était des théâtres. Il y avait encore la rampe, hein, il y avait la scène, et ben la scène, la rampe, l'éclairage des acteurs sur scène était remplacé par un écran. Et ça a été majeur pour que le cinéma soit continue, parce qu'on fidélisait le public. Et ce que rappelait Ariane Toscan-Duplantier à l'instant, c'était un moment de la vie où on se réunissait, on se rencontrait.
Oui, c'était un moment
social.
Voilà, un moment social. Et c'était une sorte de cérémonie aussi, disons-le, avec des salles dont certaines étaient de véritables temples. Il y a des photos là dans l'exposition qui montrent la splendeur de ces salles de style art déco, bien entendu, toutes plus magnifiques les unes que les autres.
Oui, alors il y avait une démarche assez commerciale au départ dans la fabrication de la salle, puisque au tout début, donc, quand les films étaient projetés chez les forains, comme on dit, les sociétés productrices de films vendaient leurs films aux forains, puis les forains vivaient avec le film aussi longtemps qu'il pouvait être montré, qu'il était en état d'être montré. Mais il y avait déjà la notion, même si ce n'était pas des salles de cinéma, de réunir sous une tente un certain nombre de gens ensemble. Puis c'est vrai que certains, comme Léon Gaumont, se sont dit, pourquoi ne pas créer nous-mêmes des salles? Au lieu de vendre nos films, louons-les. Donc il y a quand même un aspect un peu commercial, et de se dire, donnons au public le confort pour aller découvrir et les actualités et les films dans de meilleures conditions possibles. Alors, le Gaumont Palace a été le florilège des salles Gaumont pendant de nombreuses années, mais c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il faisait 6000 places, et c'était probablement l'une des plus grandes salles au monde. Quand il a été détruit en 1974.
Avec en plus tous ces nouveaux procédés qui permettaient de diffuser non seulement en couleur, mais sur des écrans de plus en plus vastes, avec des systèmes de stéréophonie, etc. Donc toujours ce besoin quasi forain d'utiliser la technique et de la mettre au service du spectacle.
Le cinéma a été longtemps considéré, à ses débuts on parlait du cinéma comme d'une physique amusante, ça s'appelait comme ça, mais le cinéma comme une attraction, comme aujourd'hui la grande coupole IMAX là, qui est à la Cité de l'Industrie, à la Cité de la Villette, il y a toujours ça au cinéma. Et moi je me souviens d'une époque où il y avait les Cinéramas, les Kinopanoramas, et Gaumont a eu, je ne crois pas me tromper, le projet d'un Gaumont-rama, puis finalement ça a été un petit peu abandonné. Mais enfin, c'est dire combien Gaumont a toujours été d'une part inventif, mais aussi a toujours essayé de suivre, parce que moi,
jusque
je dis
dans
pas
une
un peu comme
récente avec les grands complexes, etc.
Voilà. Non, mais encore aujourd'hui, il est soucieux du confort aujourd'hui, du public, d'être dans les meilleures conditions possibles pour découvrir un film.
Et c'est en effet
pour
un peu
partager le film.
Pour
fait.
Partager le film.
Voilà, et c'est un peu commercial, mais moi je dis c'est totalement commercial. Et c'est parce que c'est totalement commercial que le cinéma est vivant et qu'on a encore la chance que ça le soit encore beaucoup en France, d'être totalement commerciaux.
Alors nous avons diffusé un certain nombre de musiques que connaissent les Français au cours de cette émission. Il y a beaucoup de comédies hein, quand même chez Gaumont. Finalement,
aimons le partage de vie.
Ça, oui.
Alain Poiré, Dominique en parlait tout à l'heure. Alain Poiré.
Il y avait eu Robert Lamoureux, maintenant il y a Alain Poiré, enfin, etc. Hein.
Alors maintenant, c'est encore une époque post-Alain Poiré, mais il y a toujours eu la volonté de faire rire. Mais c'est ce qu'on disait au départ, rire et en même temps d'aller produire Robert Bresson, d'aller produire Jean Vigo, d'aller produire du cinéma moins drôle.
Tout ça dans la durée. On n'a pas parlé de la fin de Léon Gaumont, mais il faut dire qu'il faut insister sur la dimension familiale de cette société. Hein.
Oui, mais c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est toujours familial, d'ailleurs.
Oui, oui.
C'est ça qui fait la force, l'exception, encore une fois, et aussi la puissance de cette société, parce que les grandes sociétés américaines, dont on peut décliner tous les noms, n'ont pas eu cet extraordinaire, exceptionnel, en tout cas, enchaînement des personnalités. Là, aujourd'hui, en effet, il y a encore une tradition familiale dans la société Gaumont, où il y a des noms propres qui continuent sur plusieurs...
Il faut les donner, quand
sur
même.
Plusieurs générations. Ariane Toscan-Duplantier, Cécile Denis-Dumas aussi, qui est la fille de Nicolas Sédoux, tout cela fait en sorte qu'une société qui continue de se développer et d'être extrêmement vivante, est à l'écoute du goût du loisir aujourd'hui du grand public, est également aussi une société qui a une tradition. Je veux dire, cet ensemble d'inventions, d'inventivité, de novation et de tradition fait que, en effet, le nom de Gaumont continue en France. Alors qu'en effet, dans beaucoup de grands pays, y compris les temples, les pays temples du cinéma.
On n'a pas remplacé le nom Gaumont par celui de Sédoux, mais enfin, il y a aussi des Sédoux.
Oui, bien sûr, mais c'est la société Gaumont qui continue. Voilà. Et donc, ça, je crois bien que c'est vraiment une exception, encore, je le disais tout à l'heure, une exception de la France.
Et c'est une exception mondiale. 120 ans de cinéma Gaumont, c'est une exposition qu'on peut voir. Donc c'est tous les jours ici au 104 Paris.
Du mardi au dimanche.
Du mardi, ah bon, il faut préciser qu'on ne vient pas le lundi.
Le 104 est fermé. Oui.
D'accord, donc du mardi au dimanche aux horaires normaux.
14h-20h je crois.
Voilà.
Gratuite.
On va trouver tout ça sur le site internet. On peut visiter cette exposition dont Dominique Paigny est le commissaire. Et puis de Jean-Luc Douin avec une préface de Nicolas Sédoux aux éditions de La Martinière. C'est plus qu'un catalogue, hein, c'est le grand album de la maison Gaumont. 120 ans de cinéma et l'on attend la sortie de ces 9 coffrets. Chacun 20 films, chacun 20 DVD.
Ils sortent à raison de 1 ou 2 par mois jusqu'au mois d'octobre.
Ariane Toscan-Duplantier et Dominique Paigny, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.